Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde, ici Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques et directeur scientifique du CERIUM. Aujourd'hui à l'émission, espoir et clivage à la COP26. La 26e édition de la COP a lieu à Glasgow, en Écosse, cette année. Lors de cette grande messe du climat, 197 pays présentent leurs progrès accomplis depuis la conférence de Paris en 2015, mais aussi leurs nouveaux objectifs afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Cette réunion, on le sait, c'est aussi le théâtre de nombreux désaccords entre ces pays, entre le Sud et le Nord, entre la Chine et les États-Unis. Alors, 26 ans après la première COP, ces grands rendez-vous internationaux ont-ils gardé toute leur pertinence? Pour en discuter, je reçois Hugo Séguin, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, fellow au CERIUM, qui est aussi un habitué de ces COP, puisqu'il a participé à plusieurs d'entre elles. Bonjour, Hugo Séguin.
Bonjour.
Alors, Hugo, vous avez participé à beaucoup de COP lors de votre carrière, et donc vous avez un témoignage assez précieux à partager avec nous. On se demande, après toutes ces années, 26 ans après la première COP, si ces grands rendez-vous internationaux qui mobilisent des milliers de personnes ont encore un sens, encore une raison d'être.
En fait, je ne verrais pas comment les remplacer. Ces conférences-là sont indispensables parce que au-delà de la négociation du régime climatique international là, auquel on est astreint depuis 1995 maintenant, les COP sont beaucoup plus aujourd'hui que la simple réunion de diplomates. Les COP aujourd'hui accueillent 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 personnes. C'est ce que j'appelle, moi, la planète climat, c'est les scientifiques, c'est les gens d'affaires, c'est les villes, les États, les organisations qui travaillent concrètement sur le terrain à contrer les changements climatiques. Et ce rendez-vous-là, il est indispensable pour pour la planète climat parce que c'est là qu'on présente les meilleures trouvailles, c'est là qu'on présente les meilleures technologies, les meilleures connaissances scientifiques disponibles. C'est là qu'on fait qu'on réalise des ententes avec d'autres partenaires, des partenaires financiers ou des partenaires de livraison sur le terrain, pour être toujours plus performants dans la lutte au changement climatique. On n'y arrive toujours pas, et c'est pour ça qu'on pose souvent la question de la pertinence des COP, et je comprends très bien la question, elle est pertinente, mais c'est indispensable. Il est inconcevable pour moi de penser qu'on se priverait de ces conférences. L'enjeu, ce n'est pas de s'en priver, l'enjeu, c'est de les rendre encore plus efficaces.
Alors, justement, une question un peu simpliste qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne pas tenir ces grands rendez-vous sur Zoom, par exemple? Quelle est la différence entre une COP physique, comme celle qui aura lieu à Glasgow en Écosse cette année, et une COP virtuelle, comme par exemple, on aurait pu imaginer l'organiser l'année dernière?
Je pense qu'effectivement, la COVID nous amène à nous poser des questions sur les formats de ces grandes rencontres-là. Il est probable, selon moi, qu'on évolue vers des modes hybrides de conférences. Il n'en demeure pas moins que la nature même des conférences, avec leur aspect de négociation, les aspects de création de nouvelles alliances, de nouvelles coalitions, de nouveaux projets, tout ça nécessite des rencontres. Personne à personne. C'est indispensable. Les négociations climatiques, c'est vrai dans d'autres domaines des relations internationales, mais les négociations climatiques internationales nous ont habitués chaque année à des psychodrames. On ne règle jamais les choses au début de la première des deux semaines de la conférence. On règle les choses à la fin. On règle les choses derrière les portes closes. On règle les choses parce qu'on a fait jouer à plein les relations humaines pour trouver une entente. Et je ne vois pas comment on peut faire ça sur Zoom, sur Teams ou par vidéo. Je pense qu'il y aura toujours un besoin de rencontres en présentiel. Mais c'est vrai qu'on évolue vers un modèle hybride où des gens qui n'ont pas besoin d'être là, mais qui ont besoin d'avoir accès au contenu, pourront avoir accès au contenu, mais à travers des plateformes virtuelles.
Alors, Glasgow, c'est aussi un premier grand rapport d'étape après l'accord de Paris de 2015. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les objectifs de cette COP26, vous les voyez comment?
L'accord de Paris, Je vais placer un certain nombre de choses dans ma réponse. Mais la première chose que j'aimerais placer, c'est que il faut arrêter de voir ces grandes conférences-là comme les lieux où nous sauverons la planète, les lieux où ça passe ou ça casse, les conférences de la dernière chance. C'est vrai que ça fait du bon titre, ça fait des bons titres dans les médias, mais c'est inexact par rapport à ce que ces conférences-là sont aujourd'hui. La conférence qui nous encadre tous et toutes dans la lutte au changement climatique, elle a eu lieu. Le grand traité international qu'on appelait de nos voeux depuis 20 ans, il a été adopté, il a été ratifié, c'est l'accord de Paris en 2015. On ne revient pas là-dessus, c'est ce qui nous encadre dans l'action. Maintenant, l'accord de Paris, à travers les éclairs de génie qui sont au cœur de l'accord de Paris, un des plus importants, c'est ce qu'on a appelé la clause cliquet. C'est-à-dire qu'à Paris, en 2015, on savait pertinemment que l'ensemble des contributions volontaires de toutes les parties, quand on les additionnait entre elles, ne nous permettaient pas d'atteindre les objectifs climatiques que nous nous fixions. L'accord de Paris stipule que chaque 5 ans, chacune des parties devra revenir à la table avec une contribution majorée, bonifiée, un degré d'ambition plus élevé. Et ce 5 ans-là, c'est maintenant qu'on le vit. C'est la COP26. Il y a eu un hiatus pour des raisons de crise sanitaire qu'on connaît bien. Mais la première période de 5 ans, c'est celle qu'on vit aujourd'hui, en 2021. Et c'est à ce moment-là qu'on refera le calcul à partir des contributions majorées de tous et de toutes pour voir si on a réduit les écarts. Parce qu'il y a 3 niveaux d'écart dans ces négociations-là. Il manque d'engagement de réduction de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Hein. C'est un enjeu de réduction de tonnes d'émissions. Donc, il y a un écart à combler. Il y a un écart à combler au niveau des flux financiers internationaux entre les pays capables de s'y astreindre vers les pays qui sont les plus vulnérables, les plus impactés, qui n'ont pas les moyens de faire face au changement climatique. Il y a un écart entre ce qui a été promis et les besoins sur le terrain. Et le troisième écart, qui est beaucoup plus compliqué, je dirais, c'est l'écart entre les engagements sur papier des États et leur capacité de transposer ça dans leur politique interne. Et on le voit notamment à travers l'écart qui se manifeste dans la volonté des États partout dans le monde d'augmenter la production de carburants fossiles sur leur territoire. Alors, l'augmentation qui est prévue par l'ensemble des États est incompatible avec les engagements qu'ils prennent au niveau international. Alors, c'est le troisième écart, la capacité des États de transférer ça, de transformer ça en politique interne.
Alors, ce que vous voyez comme des écarts, moi, comme politologue, j'ai tendance à le voir un peu comme des problèmes d'action collective, c'est-à-dire qu'aucun État n'a intérêt ou ne voit son intérêt à contribuer davantage à la lutte au changement climatique que ses voisins, sachant qu'il aura des sacrifices économiques peut-être ou politiques à faire. Mais ces problèmes d'action collective, ils ont aussi produit des clivages, voire des conflits de nature presque géopolitique dans ces COP. J'aimerais qu'on en aborde 2 en particulier. Le premier, celui qui oppose les pays en développement aux pays les plus riches. Donc, vous l'avez déjà évoqué, les pays les plus riches, dont les contributions aux gaz à effet de serre ont plutôt tendance à diminuer en proportion de ce qui est produit à l'échelle de la planète, mais qui ont un très lourd héritage à porter, celui de l'industrialisation. Et ces pays en développement qui, eux, ont moins contribué dans le passé, mais maintenant réclament un droit à la croissance, ce qui produit des gaz à effet de serre. Alors, à la COP26, comment est-ce qu'on voit un petit peu ce conflit? Est-ce qu'il est insurmontable ou est-ce qu'il y a des compromis possibles à l'horizon?
Il est surmontable, ce conflit-là. Le conflit, si on le définit plus spécifiquement par la capacité du système international de faire converger des flux financiers importants vers les besoins terrains dans les pays les plus vulnérables, les plus impactés, je pense qu'on trouvera solution. La question maintenant, c'est de voir qui est responsable, de quelle façon cette responsabilité-là se manifeste et auprès de qui. Les pays en développement ont explosé depuis 1992. Hein. 1992, c'est l'année où on adopte la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. À l'époque, les pays en développement étaient peu diversifiés dans leur niveau d'industrialisation, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on conçoit moins des flux financiers vers la Chine, par exemple, ou vers des pays en émergence, des économies émergentes, mais plutôt des flux financiers vers des pays qui subissent de plein fouet, sans avoir la capacité d'y faire face, les pires effets des changements climatiques. Sur la question du droit à la croissance, encore une fois, c'est différencié selon selon où on se place dans ce qu'on appelle le sud global. Si on est l'Inde, on va réclamer haut et fort ce droit à la croissance. On réclame un espace dans l'atmosphère au niveau des gaz à effet de serre qui reste à lui mettre avant qu'on atteigne le seuil qu'il ne faut pas dépasser. Mais c'est pas le cas des petits pays en développement qui ne réclament pas de droit à la croissance de cette façon-là. Il y a aussi l'idée qu'on peut pour la plupart des pays, migrer vers des systèmes de croissance qui ne dépendent pas des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Au lieu de construire des centrales au charbon, on construit des panneaux solaires ou des parcs éoliens, et ça permet une croissance économique sans nécessairement passer par une économie à haute teneur en carbone, par exemple.
Alors, un autre obstacle dans la résolution de ce problème d'action collective, c'est le fait qu'on a l'impression de vivre dans un monde aujourd'hui où la confiance mutuelle entre les grandes puissances est à son plus bas niveau depuis longtemps. Je pense notamment aux relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre l'Inde et la Chine, l'Inde et les États-Unis. Est-ce que les tensions que l'on connaît, par exemple, entre Washington et Beijing, peuvent mettre en péril l'avancement des discussions, ou au contraire, est-ce que les capitales voient dans les changements climatiques une façon de collaborer lorsque c'est devenu trop difficile ailleurs, selon vous?
La conférence de Glasgow ne se présente pas bien pour un certain nombre de raisons. Une des raisons majeures étant le fait que, contrairement à l'accord de Paris, les États-Unis et la Chine n'arrivent pas à Glasgow main dans la main avec une entente. Il y a eu cette tentative-là à l'arrivée du président Biden de recréer la dynamique de ce que j'ai appelé le G2, hein, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Les Chinois ont réagi favorablement en nommant un vis-à-vis à John Kerry, qui est l'émissaire extraordinaire des États-Unis sur les changements climatiques, le même émissaire que M. Kerry avait lorsqu'il était secrétaire d'État. Donc, les Chinois et les Américains ont télégraphié des signaux très encourageants à travers le fait que malgré leur concurrence internationale, leur concurrence stratégique internationale sur un grand nombre de dossiers, sur l'enjeu des changements climatiques, ils tenaient à s'entendre. Malheureusement, au cours des 6 derniers mois, les tensions ont augmenté autour de Taïwan, autour de la crise ce qu'on a appelé à tort, je pense, la crise des sous-marins, parce que ce n'est pas une crise des sous-marins, c'est une crise d'alliance stratégique en Asie-Pacifique pour contrer la Chine. Alors, la Chine et les États-Unis n'arrivent pas à Glasgow avec une position unifiée sur la question des changements climatiques, et ça m'inquiète parce qu'on ne recrée pas les conditions gagnantes de Paris. Et moi, j'aimerais problématiser cette conceptualisation que les changements climatiques sont un problème de responsabilité collective, dans la mesure où plusieurs pays ne le conçoit pas comme ça. L'Europe, par exemple, ne conçoit pas son action en réaction à d'autres qui pourraient bouger ou ne pas bouger. L'Europe prend des décisions en fonction des intérêts qu'elle perçoit être les siens. C'est ce qui amène la Grande-Bretagne et l'Europe, la Grande-Bretagne avec des objectifs super ambitieux, moins 68% d'émissions de gaz à effet de serre de diminution pour 2030, l'Europe, au moins 55% de réduction. L'Europe, quand elle se donne des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, elle les atteint. Hein? Ça fait mentir là, ceux qui pensent que tous ces efforts-là ne servent à rien. L'Europe est là pour démontrer que quand on se donne des cibles, on peut les atteindre. Mais l'Europe ne fait pas ça dans une perspective où elle cherche à en faire moins que les autres, elle en fera plus si les autres en font plus. C'est pas du tout la même dynamique. chacun des pays se fait un calcul d'intérêt particulier par lequel la plupart des pays arrivent à la conclusion que c'est dans leur intérêt de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de se préparer aux impacts des changements climatiques. La Chine fait la même chose. La Chine a des problèmes de qualité de l'air impressionnants le long des villes côtières, le long de la côte chinoise, les villes côtières étant emprisonnées dans des chapes de smog. Alors, lutter contre les changements climatiques, lutter contre la pollution atmosphérique en fermant les centrales au charbon, pour la Chine, ça va de soi. La Chine est préoccupée aussi parce que la fonte des glaciers dans l'Himalaya, des glaciers qui d'où provient l'eau de leurs principaux fleuves, ce qui assure l'irrigation de leurs terres agricoles, préoccupée par ça. Donc, ce n'est pas du tout une question de théorie des jeux ou une théorie où les acteurs se regardent en chien de faïence en se demandant lequel va bouger le premier. Tout le monde bouge selon ses intérêts. Maintenant, la question, c'est comment bouger plus rapidement, comment bouger de façon plus affirmée. C'est ce qu'on verra à la COP26.
Oui, c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission. Pour vous, la COP, c'est moins le lieu de faire des engagements qui vont devenir contraignants, et c'est plutôt l'occasion d'échanger des bonnes pratiques et de garder un certain momentum. J'aimerais terminer en vous posant une question peut-être davantage basée sur votre expérience personnelle des COP26. Vous y êtes souvent allé, vous avez même parfois été accompagné d'étudiants et d'étudiantes, vous avez fait partie, je crois, de la délégation du Québec à ces COP. Comment on se sent quand justement on n'est pas peut-être au centre du jeu, qu'on arrive avec quelques peut-être dizaines de personnes? À quoi ça ressemble, finalement, le Québec ou le Canada dans ces COP26, dans les jours parce que ça dure presque 2 semaines, que dure une COP?
Pour des étudiants, des étudiantes qui s'intéressent aux enjeux de changement climatique, c'est l'équivalent là, de l'analogie des enfants dans un magasin de bonbons. Et je m'inclus comme enfant dans le magasin de bonbons. À travers les COP, j'explique à mes étudiants, mes étudiantes, à travers les COP, on voit le monde bouger. On parle de tout aux COP. Tout est lié au changement climatique, les problèmes d'agriculture, les réfugiés climatiques, la transition énergétique, les enjeux géopolitiques, les politiques d'aménagement du territoire, le transport, les relations bilatérales. L'enjeu pour les gens qui suivent les COP, mais qui ne sont pas au cœur des négociations, c'est de trouver le filon, de s'accrocher à un sujet d'intérêt et à le suivre jusqu'à la fin. C'est aussi un lieu qui peut à la fois nous plonger dans une profonde dépression, comme un lieu qui peut nous permettre d'en ressortir galvanisé pour la suite. Tout dépend de la salle dans laquelle on entre. Comme observateur, on peut entrer dans les salles de négociation et là, on voit à quel point c'est pénible, c'est lent, c'est frustrant, ça n'avance pas. Et on peut se dire, mon Dieu, mais on n'y arrivera jamais. Et lorsqu'on sort de la salle et qu'on va dans la société civile en mouvement, c'est là qu'on voit que tout bouge sur le terrain. La question, c'est ce que j'explique toujours à mes étudiantes et à mes étudiants, comment on fait pour que l'action bouge plus vite, davantage et de façon plus affirmée. C'est toujours ça le défi.
Merci Hugo Séguin d'avoir partagé avec nous vos analyses, mais aussi votre optimisme mesuré. C'est ce qui termine notre émission sur la COP26 de Glasgow en Écosse. Un grand merci à l'équipe technique de la Faculté des arts et des sciences, à notre recherchiste Emma Guerrero-Dufour, à Canal Savoir, à l'agence France Presse et au Cerium qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt.